Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Alléluia. Amen. Ce matin, je vous demande pardon, mon ordinateur m'a joué un sale tour, une fois de plus. J'avais prévu de vous mettre les versets bibliques sur le vidéo, sur votre projecteur, non, vidéo projecteur, mais l'email n'est pas parti. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé cette série intitulée « Le contrat de maturité avec Dieu », ou encore, je pourrais aussi la renommer en disant simplement « Dieu ordonne que tu portes du fruit ». Que quelqu'un dise à son voisin « Dieu ordonne que tu portes du fruit ». Dis à l'autre voisin, puisque celui-là n'a pas souri, dis à l'autre voisin, Dieu ordonne que tu portes du fruit. Et s'il n'a toujours pas souri, dis-lui, fais-moi au moins sourire, bon sang. Nous sommes dans la maison de Dieu, c'est une maison de joie, une maison de paix. Que quelqu'un dise amen. Le contrat de maturité avec Dieu, où Dieu ordonne que tu portes du fruit. Le verset de référence que nous avons lu, c'est Luc chapitre 13, au verset 6 à 9. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre, sans pouvoir en trouver. Arrache-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » Maître, lui répondit l'homme, ça, je suis sûr que c'est le Christ Jésus qui intercédait encore pour toi et pour moi pour dire, Seigneur, sois encore indulgent, sois encore miséricordieux. Parce que comme je vous ai dit la semaine dernière, vous savez, Dieu est un Dieu bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu est doux, mais il n'est pas doudou, que quelqu'un dise amen. Dieu est un Dieu bon, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. Et Dieu est un investisseur. Lorsqu'il met en toi, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, Dieu est très sérieux. Et j'ai dit la semaine dernière qu'il en va de sa crédibilité. Dieu veut et doit transformer ma vie et ta vie parce que sa crédibilité en dépend. La raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu questionnent l'existence de Dieu, questionnent la puissance de Dieu, c'est parce qu'ils ne voient pas le fruit de la transformation manifestée dans la vie de ceux qui disent « Alléluia, gloire à Dieu » qui vont à l'église tous les dimanches. Voir des gens toute la semaine, le lundi matin, les gens arrivent au boulot, toi tu arrives au boulot, tu es down, il est down, il fume, toi tu ne fumes pas, mais vous êtes tous les deux déprimés. Dès qu'on dit plan de licenciement, toi tu as peur, lui il a peur, tout le monde a peur. Où est la distinction entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu? Où est la distinction entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu? Alors c'est pour ça que Dieu est sérieux et Dieu veut nous transformer, que quelqu'un dise amen. Maître lui répondit, Jésus, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Laissez-moi vous dire une chose, le fumier ne sont pas bons du tout. Oh oh. Quand Jésus dit « Je mettrai du fumier », t'inquiète pas, ça ne veut pas dire qu'il va arroser avec de belles choses. Il va mettre le fumier. Le fumier, ça sent mauvais. Ça veut dire « Laisse, attends, encore un an supplémentaire. Je vais encore le mettre dans le four. » Les frustrations, les blocages, les échecs, les revers de la vie, les challenges de la vie, on va en parler tout à l'heure, mais qui ne sont là simplement que pour faire sortir le fruit. Que quelqu'un dise « Amen ». C'est marrant, ça, j'ai jamais remarqué d'ailleurs que c'était du fumier qu'il voulait mettre. Tu vois, tu voulais qu'il mette des roses. Non, mon ami, ce n'est pas les roses qui font sortir le fruit, c'est le fumier. Et c'est un vrai fumier. Je ne parle pas de Dieu, que quelqu'un dise amen. Je parle du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine, sinon tu le feras arracher. Amen. Et je vous ai dit la semaine dernière que et j'avoue que très, très sincèrement, je ne vous cache pas que personnellement, j'avais jamais fait avant cet enseignement. Ça m'est venu pendant que je priais. Le Seigneur m'a fait remarquer simplement qu'il y avait une distinction entre la maturité et la croissance. Je n'en étais jamais rendu compte en fait auparavant. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'on peut croître sans mûrir. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, voyez-vous, lorsque vous voyez un arbre qui donne des feuilles, ça veut dire qu'à l'époque, au départ, il y avait une petite semence, une petite graine qui a été plantée en terre, qui a commencé à grandir, qui a poussé, qui a donné des feuilles. Le problème, c'est que les feuilles, ce n'est pas l'objectif. L'objectif que Dieu veut voir, c'est le fruit. Que quelqu'un dise le fruit. Et on a parlé la semaine dernière des six raisons pour lesquelles tu dois porter du fruit. Je n'en reviendrai pas dessus, les CD et les cassettes sont disponibles. On a parlé également des quatre mythes erronés sur la maturité. Ce que nous avons comme préjugé sur la maturité, nous pensons souvent être spirituel parce que je suis à l'église depuis 10 ans, depuis 15 ans. J'ai accepté le Seigneur en 1957, tu vois frère. Et j'ai été plusieurs fois pasteur et responsable. Mon frère, ma soeur, on s'en moque. La question c'est, est-ce que tu portes du fruit? Le Seigneur m'a dit la semaine dernière, pendant que je méditais encore sur la suite de ce message, le Seigneur m'a dit une chose qui m'a surpris. Il m'a dit, tu vois, et il m'a dit, même vous, des fois, vous recherchez la croissance de l'Église. Qui veut que l'Église grandisse? Alors, je sais qu'il y en a, ils sont confortables dans les petites églises parce qu'ils se disent, c'est dans les petites églises au moins qu'il y a l'amour fraternel. C'est pas vrai, il y en a aussi dans les grandes églises, tout dépend de l'organisation. Le Seigneur m'a dit de ne pas rechercher la croissance de l'Église, mais la maturité de l'Église. Une Église peut grandir, mais ne pas être mûre. Parce que voyez-vous, les fruits, lorsqu'ils sont mûrs, attirent naturellement tout le monde. Parce que tout le monde a envie de consommer des fruits. Lorsqu'une femme est mûre, les hommes veulent l'épouser. Lorsqu'un homme est mûr, les femmes veulent l'épouser. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors ne cherche pas l'homme, cherche la maturité. Ne cherche pas la femme, cherche à mûrir. Parce que si tu n'es pas mûr, tu vas la tuer. Lorsqu'on est même mûr, il incarne la sécurité, il incarne la sérénité dont une femme a besoin. Que quelqu'un dise Amen. Alors je vous ai parlé de porter du fruit. Lorsque je parle de porter du fruit, nous allons voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels Dieu nous appelle à porter du fruit. Je pensais avant que porter du fruit, ce n'était que dans le domaine du caractère. C'est vrai, mais c'est incomplet. Parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels Dieu nous appelle à porter du fruit. Lorsque tu manifestes la paix, lorsque tu manifestes la douceur, l'amour, la maîtrise de soi, la productivité, lorsque tu as une mentalité de gagnant, lorsque tu as une joie permanente, une patience à toutes épreuves, lorsque tu as une bonne attitude permanente devant les revers de la vie, lorsque tu sais voir au travers de toutes les circonstances de la vie, au travers de chaque événement, positif ou négatif, lorsque tu sais voir la main invisible de Dieu à l'œuvre, alléluia, lorsque tu sais tenir un langage d'encouragement et d'action de grâce, un langage de remerciement, lorsque tu sais aider les autres à progresser, lorsque tu sais aider les autres à devenir meilleurs en Christ, lorsque tu sèmes régulièrement et que tu donnes aux autres l'envie de t'imiter, lorsque tu réussis dans ce que tu fais et que tu n'es pas impressionné par et que tu n'as pas peur que les autres réussissent, là tu portes du fruit. Et les gens, le monde a besoin du fruit. Je vous ai dit la semaine dernière, les employeurs recherchent le fruit. Le monde autour de nous recherche le fruit. Surtout en période de sécheresse, comme c'est le cas aujourd'hui. Période de sécheresse, parce qu'aujourd'hui, dans l'environnement où nous sommes, c'est partout pareil dans le monde entier, les gens ont peur. Peur du futur, peur de la maladie, peur de la pauvreté, peur de l'échec, peur du rejet, peur des catastrophes. Nous sommes dans une ère où le stress et l'inquiétude font partie de l'eau quotidienne des individus sur Terre. Quand tu n'es pas stressé, tu n'es pas normal. Quand tu es stressé, tu es normal. Alors, quand tu prends le métro, tout le monde est stressé. Tout le monde marche vite. Il y en a, ils ne sont pas pressés, mais ils marchent vite. Tu ne sais même pas où il va. Il va nulle part, mais là. Et quand toi, tu prends le temps de marcher, de respirer la nature, la création de Dieu, pour te bouscule. Dépêche-toi. Mais tu n'oublies. Oh. Il y en a, ils te font des queues de poisson. Tu conduis tranquillement, ils te font des queues de poisson. Ils veulent te mettre en danger. Il ne va nulle part. Les gens sont stressés. C'est comme. Il y a des démons qui sont là pour stresser la population. Et si toi tu es enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, et tu rentres dedans, ça veut dire que tu n'as rien compris, tu te fais avoir toi aussi. Que quelqu'un dise Amen. Le monde a besoin, le monde, les gens recherchent le fruit. Dis à ton voisin, on recherche le fruit. Et ceux qui manifestent ce fruit, ils attirent naturellement. Alors lorsqu'une église manifeste le fruit, alors la croissance est automatique. Pourquoi? Parce que les gens viennent. Et ils ont envie de rester. Ils ont envie de s'intégrer parce que le fruit est visible. Que quelqu'un dise amen. Ça vous est déjà arrivé d'aller dans une église, ou ici ou ailleurs, et de ne pas avoir envie de déposer vos valises? Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans une grande église? Non, même si en France, grande église, c'est compliqué. Parce que quand tu es 50 personnes, c'est pas mal. 100 personnes, c'est beaucoup. 200 personnes, waouh! 500 personnes, Jésus est venu. Voilà, bon. Mais ça m'est arrivé d'aller dans une église. Et puis, parce que quand on va quelque part, on a tous des attentes. On a tous quelque chose qu'on recherche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ça m'est arrivé d'aller quelque part, et puis je vois, j'observe, et puis j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie de continuer ma route. Pourquoi? Pourtant, des fois, l'église est grande. Ça fait 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, mais tu n'as pas envie de t'arrêter. Et quand tu n'as pas envie de t'arrêter, c'est parce que tu ne trouves pas le fruit que tu espérais trouver. Le monde recherche des fruits. Le Seigneur m'a dit, ICC, ne cherchez pas la croissance. Cherchez à être mûr. Manifestez la maturité. Et lorsque vous manifestez la maturité, vous manifestez la maturité parce que Jésus a dit, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et la maturité, c'est lorsque Christ prend de plus en plus de place dans tous les aspects de ma vie et que je diminue de plus en plus dans tous les aspects de ma vie. Que quelqu'un dise amen. Que recherchent les gens? Ils recherchent des personnes remplies d'amour et d'humilité. Des couples mariés ou fiancés qui élèvent les standards du mariage et qui vous donnent envie de vivre une relation de couple aussi harmonieuse qu'eux-mêmes. Ils recherchent des gens qui travaillent avec passion et pas qui font un boulot. Des gens, des individus qui libèrent leur potentiel et qui servent leur génération. Ils recherchent des personnes positives et toujours confiance en l'avenir. Des messagers de bonnes nouvelles. Parce que quand vous allumez la télévision, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Les gens recherchent des personnes qui sont libérées des complexes, des comparaisons, de l'esprit de rivalité ou des complexes d'infériorité. Les gens recherchent des personnes qui peuvent les aider à réussir, mais qui sont contents aussi quand ils réussissent. Parce que vous savez, dans beaucoup de milieux, au début, quand tu arrives, les gens sont contents de te voir. Mais quand ils voient que tu commences à les dépasser, ils commencent à avoir peur. Mentalité de crabe. Reste avec nous ici. Où veux-tu aller? Tout le monde a échoué. Tout le monde s'est arrêté à cette limite. Pourquoi toi, pasteur, veux-tu dépasser 4000 personnes à Paris? Nous sommes là depuis 20 ans. Nous avons 50 personnes. Reste avec nous. Et si nous manifestons la maturité, ICC grandira. C'est quelqu'un qui dit encore amen. Alléluia. Les gens cherchent des personnes qui se réjouissent avec vous lorsqu'il vous arrive une bonne nouvelle. Pas qui sont jaloux de vous, mais qui se réjouissent, qui sont contents, yes! Et qui pleurent aussi avec vous quand vous pleurez. Ça, c'est ce que j'appelle manifester la maturité. Que quelqu'un dise amen. Certains d'entre nous, nous avons posé nos valises dans des endroits où il y avait la croissance. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit, la croissance vient avec l'application de principes universels d'organisation. Je répète, le Seigneur m'a dit, la croissance vient avec l'application de principes universels d'organisation. Mais la maturité vient avec l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des individus, au travers de la parole, au travers de la prière. Que quelqu'un dise amen. Alors, il n'a pas dit que les principes ne sont pas bons. Il a dit que les principes, c'est bon. Mais il a dit que la maturité vient avec le travail du Saint-Esprit dans les mentalités, dans les cœurs. Et c'est là que se fait toute la différence. Alors, certains d'entre nous, nous avons posé nos valises par le passé dans certains endroits, dans certaines entreprises, dans certaines églises où nous n'avons pas vu le fruit que nous espérions trouver. Nous ne l'avons pas vu. Et nous sommes quand même restés assis, nous sommes restés là en espérant, comme tout le monde, que ça va changer un jour. Combien de gens n'ai-je pas vu qui sont arrivés dans une église, ils ont dit, c'est pas possible, c'est pas terrible, mais je suis sûr que quand on va commencer à prier, quand on va commencer à bousculer le gars, ça va aller. Et puis tu es resté, tu as essayé de le bousculer, il avait sa vision. Il lui n'allait nulle part, tu avais voulu le faire aller quelque part. Et puis à un moment donné, comme il a vu que tu le bousculais tout le temps pour aller quelque part, alors qu'il ne voulait aller nulle part, et puis il s'en est pris à toi, et puis tu as commencé à te sentir maintenant mal à l'aise. Et ce que ça produit la plupart du temps, c'est que ça produit des chrétiens qui sont déçus des églises et qui disent, je ne vais plus à l'église. Mais ça, c'est une excuse de médiocrité. Parce que tu ne peux pas t'en prendre aux autres, tu dois t'en prendre à toi-même. Que quelqu'un dise amen. Recherchons la maturité. recherchons la maturité. Alléluia. Aujourd'hui, je vais voir avec vous deux points. On a vu la semaine dernière le pourquoi nous devons mûrir. Aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous dans quel domaine est-ce que je dois mûrir et quand est-ce que je dois mûrir. Est-ce que vous êtes prêts? Quand est-ce que Dieu veut que tu portes du fruit? Le premier point, Dieu veut que tu portes du fruit lorsque tu reçois la semence de sa parole. Dès qu'une graine est plantée en terre, alors on s'attend naturellement à ce qu'elle porte du fruit. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 13, nous connaissons tous, certainement, beaucoup d'entre nous du moins pour la plupart, nous connaissons la parabole du semeur. Amen. Et Jésus dit que lorsque la semence tombe en terre, elle doit porter du fruit. Mais vous remarquerez dans la parabole du semeur que sur toutes les semences, sur les différents types, il n'y a que 25% qui ont produit du fruit. Les 75% des gens qui ont reçu des différents types de sols, qui ont reçu la semence, n'ont pas porté du fruit. Ça m'intrigue parce que ça veut dire qu'il y a 25% dans cette salle qui vont comprendre ce que je dis et qui vont porter du fruit, et que les autres ne vont pas apporter du fruit, c'est dangereux. Je suis sûr qu'ici nous serons 100% à porter du fruit. Que quelqu'un dise encore Amen. Mon frère, ma soeur, dès lors que tu reçois la semence de la parole de Dieu, Dieu attend que tu portes du fruit. Depuis combien de temps entends-tu l'évangile du règne de Dieu? Depuis combien de temps es-tu challengé, motivé, encouragé, développé, boosté? Depuis combien de temps? Demande à ton voisin, depuis quand? Demande encore à l'autre, depuis quand? Ça fait longtemps que tu entends la semence de la parole. Et toujours, tu es en train de te trimballer toujours. Ah, ça va pas. Ah, moyen, moyen. Mais attends, mais tous les jours on t'encourage. D'accord, hier c'était normal. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Un an plus tard, 2 ans plus tard, tu n'es toujours pas capable de prier. Quand on dit prier, dès qu'on dit prier, il y en a maintenant, ils commencent à baisser la tête. Dès que le pasteur dit, je vais demander à quelqu'un de lever la voix, tout le monde baisse la tête. Hier, tu avais peur de donner. Mais à force d'entendre ce que tu entends. Vous savez, je disais une fois à une réunion que dans le monde francophone, nous, en fait, le mot donner dans le monde francophone, c'est un mot abominable, on dirait. Parce que dès que tu élèves la bouche, tu ouvres la bouche, tu lèves la voix pour dire, donnez-moi, tout le monde commence à baisser la tête. Tu n'as même pas encore dit. Hein? Les gens ont peur de donner. Ça, c'est normal, c'est une peur que tu avais au commencement. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Depuis, d'accord, tu as grandi, tu as un peu plus confiance en toi. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Dieu veut voir du fruit dans ta vie, que quelqu'un dise Amen. Dieu veut voir quand on dit, donnez-moi un sourire. Là, tout le monde sourit. Ah, ouf, sauvé par le gong. Ouh là 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 là, heureusement. Heureusement qu'il n'a rien demandé d'autre. Hein? Oi. Mais quand on dit donnez-moi, moi je suis content de donner. Pourquoi? Parce que j'ai l'occasion de semer en terre. Et je sais que ce que tu sèmes en terre doit revenir forcément, que quelqu'un dise Amen. Alors lorsque tu reçois la semence de la parole, Dieu ordonne que tu portes du fruit. Il y a des gens qui reçoivent la semence de la parole. Alors moi j'en ai vu, je pense pas qu'il y en ait à ICC, mais je le dis quand même. Et qui, au lieu de se remettre en question eux-mêmes, ils accusent la semence, c'est-à-dire la parole qu'ils entendent. Ouais, mais de toute façon, la parole là. Il y a un gars qui est venu nous voir, pasteur Yves et moi, une fois, il dit il avait des problèmes personnels. Puis il arrive, il dit ouais, ben moi, je suis déçu. Hein. Il n'y a pas l'enseignement parce que je trouve que la parole là, c'est pas ça. Je dis ah, mon gars. Plusieurs centaines de personnes disent que la parole les transforme. Toi, la parole, c'est pas ça. À votre avis, le problème, il vient d'où? Le problème vient d'où? Alléluia. Je me suis rendu compte que on peut tous entendre le même message mais n'être pas impacté de la même manière. Ça, c'est une chose qui moi me fait, qui m'étonne souvent. Je rencontre des pasteurs, je vais voir un pasteur, je lui dis, parce que je vois que le pasteur il a envie que ça change. Je lui dis, pasteur, je vais te recommander 2 livres. Il dit, lesquels? Il dit, moi, ces livres-là, ça changeait complètement ma façon de voir le monde. Ça m'a boosté, ça m'a libéré, ça m'a challengé. Je lui ai dit, le premier livre, ça s'appelle « Les 21 lois irréfutables du leadership ». C'est indiscutable ou irréfutable ? Irréfutable du leadership. Et le deuxième livre, c'est « Les 17 lois du travail, irréfutables du travail en équipe ». Je lui ai dit, dis-les. Il me dit, oh, mais je les ai déjà lus. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça t'a fait ? Oh, ben rien. Je lui ai dit, mon Dieu. Je lui ai dit, non, c'est excusable. Je lui ai dit, ça veut dire qu'on n'a pas lu avec la même attitude. On ne l'a pas lu avec la même soif. Parce que le livre est très profond. Mais toi, il t'a rien fait. J'ai lu un livre qui s'intitule Père riche, Père pauvre. Et quand j'ai lu ce livre Père riche, Père pauvre, je me suis dit, plus jamais je serai pauvre. Parce que la pauvreté, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'argent. Que quelqu'un dise amen. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit d'improductivité et d'incapacité à créer de la richesse. Quand j'ai lu le livre, j'étais en colère. Il y en a qui disent le livre, ils disent, ouais, le livre est pas mal. Je dis, qu'est-ce que tu en as tiré? Bah écoute, la meilleure. Un pasteur qui veut que son église grandisse. Moi j'ai lu un livre sur la croissance de l'église qui m'a bouleversé. Je lui dis, est-ce que tu as lu ce livre? Il me dit, ouais. Je dis, alors? Il me dit, oh mais tu sais, lui c'est pas un charismatique comme nous, hein? Je dis, oh non. C'est tout ce que tu as trouvé à dire. Ce n'est pas un pentecôtiste charismatique. Ça veut dire il ne fait pas les arts martiaux dans l'église. C'est le catavre. Donc comme il ne fait pas ça, ça veut dire que ce n'est pas un gars qui est bien comme nous. Hein, lorsque tu reçois la semence de la parole de Dieu. Deux, tu dois porter du fruit chaque fois que Dieu te le demande. Que quelqu'un dise amen. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, il y a des fruits que Dieu exige de voir en nous. Il y a des fruits que Dieu nous exige de porter en toute saison. Lorsque Jésus a maudit le figuier, comprenez bien, ce n'était pas la saison des figues. Donc en réalité, l'arbre avait le droit de ne pas avoir de figues. Est-ce que vous me comprenez? Mais Jésus arrive, il dit, où est le figuier? Je vais en manger tout de suite, c'est où? Où est le fruit de la joie? Là, chez toi là. Ah Seigneur, là c'est pas le moment, là ça va pas. Où est le fruit de la joie? Maintenant, c'est où? Seigneur, là, tu comprends, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Psaume 112, il a dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Où est le fruit de la joie? Ah, mais là, ça ne va pas. Là, Dieu te frappe. Dieu dit, je veux voir le fruit, montre ça. Quelqu'un qui a dit ça même. Ce n'était pas la saison des figues. Il y a des fruits que Dieu veut nous voir porter en toute saison. Que quelqu'un dise en toute saison. La Bible dit dans Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire, soyez toujours dans la joie. Mais gars, il y a des moments où on n'a pas envie d'être joyeux. Il y a des moments où on a envie de tirer la tronche et de dire, maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Alléluia. Il y a des jours où tu n'as pas envie d'être joyeux. Tu dis, mais en fait, pour quelle raison est-ce que je vais être joyeux? La plupart du temps, la raison pour laquelle nous ne savons pas être joyeux, c'est parce que nous ne voyons pas. Nous ne comprenons pas et nous ne voyons pas ce que Dieu est en train d'opérer dans l'invisible. Que quelqu'un dise amen. Et pourtant, Dieu ordonne que tu sois toujours dans la joie. Réjouissez-vous, réjouis-toi. Ça veut dire, ça ne dépend plus des saisons. Tu dois toujours porter le fruit de la joie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, je crois. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances, dites merci Seigneur. C'est un commandement. Rendez grâce en toutes choses. Il n'a pas dit rendez grâce dans les bonnes choses. Rendez grâce lorsque vous avez un bon témoignage à donner. Rendez grâce en toutes choses. C'est un commandement. Dieu dit, tu dois porter du fruit chaque fois que je te le demande. Et rappelez-vous la sanction. Si tu ne portes pas du fruit au bout de... Pas tout de suite. Si tu ne portes pas du fruit, c'est-à-dire, si tu ne sais pas rendre grâce en toutes choses, Dieu sait ce qu'il a fait. Il va mettre du fumier. Alors il vient, il amène le fumier. Il ne veut pas rendre grâce en menant dans sa vie quelque chose qui sent mauvais. Et là, tu essaies quelque chose, ça échoue. Tu dis, mais non Seigneur, ça devrait aller mieux justement. Il dit, je vais t'apprendre à rendre grâce en toutes choses. Tu ne veux pas rendre grâce en toutes choses? Mettez encore du fumier. Mets encore. Ah Seigneur, ça sent mauvais. Et vous savez ce qu'on sent mauvais? Ce sont les expériences amères de la vie. Que quelqu'un dise Amen. Les expériences amères de la vie, Dieu dit, apprends à rendre grâce. Et fais ça encore pendant un an. Et toi, au bout d'un an, alors c'est pas compliqué. Hein. Vous savez, comme disait le pasteur, il va enseigner un message une fois, c'était obéir de gré ou de force. Et je me suis rendu compte, mon frère, ma soeur, que tant que c'est Dieu qui te façonne, de toute manière, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à Satan, tu n'es pas neutre. La Bible dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé en lui. Soit la justice de Dieu, soit le péché qui mène à l'enfer, soit la justice de Dieu qui mène à la vie éternelle. Qui a triomphé en toi? Je vais me dire, rendez grâce. Alors, je sais que c'est difficile. Que quelqu'un dise Amen, peut-être. C'est difficile ou pas? Mais Dieu dit, rendez grâce en toutes choses. Il n'a pas dit, rendez grâce quand vous sentez que ça va, quand vous vous sentez dans la joie. Il a dit, rendez grâce en toutes choses. Et quand tu comprends ça, quand tu apprends à rendre grâce en toutes choses, alors Dieu dit, le fruit est en train de sortir de lui. Que quelqu'un dise Amen. Quand tu apprends à rendre grâce en toutes choses, Dieu dit, voilà quelqu'un maintenant qui ne dépend plus des circonstances. Dont la louange et l'adoration ne dépendent plus des événements autour de lui, mais dépendent de la communion et de l'intimité qu'il a avec moi. Voilà quelqu'un qui a décidé de m'obéir. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Il ne vivra pas sur la base de ce qu'il voit. Ah, ça c'est superbe. Alléluia, Seigneur. Il dit, non, ça c'est pas génial du tout, mais alléluia, ça fait mal. Aïe, alléluia. Aïe, alléluia. Ça fait mal. Mais je te dis quand même, alléluia. Je ne dis pas alléluia pour la douleur. Je dis alléluia parce que tu es présent. On te fouette. Aïe, ça fait mal. Mais je te rends grâce parce que tu règnes. Tu n'as pas changé. Tu es toujours sur le trône de gloire. Et d'éternité en éternité, tu règnes. Je vous ai parlé de cette femme qui a perdu son fils unique qu'elle avait. Et lorsqu'elle a perdu son fils, elle a fait une dépression. Et puis elle a dit, Dieu, toi et moi, c'est terminé. Il y a un pasteur qui est parti la voir pour la consoler. Et elle dit au pasteur, où était Dieu pendant que mon fils était en train de mourir? Elle a osé faire comme Job. Elle a osé défier Dieu. Elle a osé questionner Dieu. Le pasteur lui a répondu, ma soeur, avec beaucoup d'amour, il était exactement au même endroit qu'il était lorsque son propre fils était en train de payer le prix pour toi à la croix de Golgotha. Il n'avait pas changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Que quelqu'un dise Amen. Tu dois porter du fruit. Chaque fois que Dieu veut le voir manifester. En toute saison. Que quelqu'un dise en toute saison. Alors laissez-moi vous dire une chose. Vous avez l'impression que c'est compliqué, mais en fait ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de décision. Que quelqu'un dise Amen. Ça veut dire que c'est une question de décision. Je n'aime pas ma femme parce que je sens que j'aime ma femme. J'aime ma femme parce que j'ai décidé d'aimer ma femme. Je loue Dieu parce que Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Loue continuellement, bénis continuellement l'Éternel. Alors je loue continuellement, mon frère, que ça aille ou que ça n'aille pas. Des fois tu as des périodes de découragement, de frustration, de challenge, tu es énervé. Mais loue et bénis l'Éternel. Que quelqu'un dise Amen. C'est un commandement, ce n'est pas une option. 32. Dans quel domaine est-ce que Dieu veut que je mûrisse? Dans quel domaine est-ce que Dieu veut que je mûrisse? Le premier domaine, c'était quand est-ce que je dois porter du fruit? Le grand 2 ou d'aujourd'hui, c'est dans quel domaine est-ce que je dois porter du fruit? Il y a un ou deux points, peut-être un seul, que je vais voir avec vous aujourd'hui. Je vous ai parlé, il y a quelques semaines, des 5 domaines dans lesquels on va étudier pendant plusieurs semaines. Le premier domaine dans lequel Dieu veut que je porte du fruit, c'est le domaine de la connaissance. Que quelqu'un dise la connaissance. Dieu veut que je sois mûr, que je cesse d'être un bébé, que je sois mûr, que je sois ignorant. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. On va lire Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Est-ce que vous y êtes? Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Moi, je vais vous lire ça avec la version du semeur. Je lis. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, que quelqu'un dise tout ce temps, voilà, l'auteur de l'Hébreu est inquiet. Il dit ça, c'est devenu compliqué. Ce sont des choses qui sont devenues difficiles à dire, hein, difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venu au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. L'auteur des Hébreux reproche aux chrétiens qui se sont convertis depuis le judaïsme, il leur dit, mais ça fait longtemps depuis le temps que vous êtes là. Vous auriez dû être des personnes mûres dans la parole, dans la connaissance, et on doit encore vous enseigner des rudiments alors que vous devriez avoir la connaissance. Je vous ai dit la semaine dernière pourquoi est-ce que la connaissance est importante. Parce que dans la vie, tu ne peux faire que ce que tu connais. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu en as encore au lait ou est-ce que tu en as à la nourriture solide? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais des fondamentaux de la doctrine biblique? Il y en a parmi nous qui ne savent même pas répondre. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on a accepté le Seigneur. On ne sait pas répondre aux questions d'un nouveau converti. Ton voisin est en train de baisser la tête. Est-ce que tu peux expliquer des mots simples comme c'est quoi la justification, la sanctification, la rédemption, l'expiation? C'est quoi le salut? C'est quoi? Que quelqu'un dise amen. Est-ce que tu peux expliquer qui est Satan? Parce que voyez-vous, quand tu ne sais pas dire qui est Satan, tu vas continuer d'avoir peur des démons. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont peur du diable. Dès qu'un démon, écoutez, même quand un démon oppresse ton corps, tant que tu n'as pas la connaissance, tu vas continuer d'avoir peur de Satan. Le jour où tu as la connaissance, tu vas commencer à regarder à Satan comme, oh, toi aussi. Quand tu es enfant, quand tu es bébé, si quelqu'un met un masque de gorille, et puis il vient devant toi et puis il fait, ah! Qu'est-ce que fait l'enfant? L'enfant, il a peur. Ah, papa, papa. Mes enfants, dès qu'ils voient le chat dehors, ils courent dans la maison. Même le chat, il fuit. Fin d'année, j'ai pris le bâton, j'ai dit, chat, si tu viens, je vais te taper. Non, pardon, il y en a qui aiment les animaux. Moi, si j'aime les animaux, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Parce qu'on va te dire, voilà, le pasteur, je n'ai pas tapé le chat. Voilà, après, on va m'accuser. Je n'ai pas tapé le chat. Voilà. J'ai dit au chat, arrête de faire peur à mes enfants. C'est tout. Parce que vous savez, ici, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Hein. Au pays? Non. Non, mais ici, le chien est devenu comme un être humain. On lui achète des vêtements, on lui met des pulls, des tricots, des chaussures, enfin des chaussons. Bientôt, ils vont consommer des baskets pour chats. Et il y en a, ils mettent tout leur argent dans les chiens et pas dans les êtres humains. Et il y en a, quand ils meurent, ils laissent leur héritage à un chien. Il faut être un chien pour faire des choses pareilles. Parce que franchement... Alléluia. Où est-ce que tu en es en termes de connaissances? Qu'est-ce que tu connais aujourd'hui? Parce que ce que tu connais, tu peux le pratiquer. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le pratiquer. J'entends des chrétiens qui ont peur du diable. Parce qu'il y a un démon, parce qu'ils ont fait un cauchemar. Parce que, écoute, tu dormais, on est venu t'étrangler. Ah! Et puis tu lèves le matin. Pasteur, prie pour moi, Satan. Elle la connaissance. Elle la connaissance. Je vous ai déjà dit 1000 fois ici que Satan, c'est le prince des ténèbres, et que le mot ténèbres, c'est le mot qui est aussi traduit de l'hébreu par ignorance, et que le mot prince, ça veut dire premier, et que Satan, ça veut dire le prince des ténèbres, ça veut dire le premier qui règne par l'ignorance, ça veut dire tous les domaines dans lesquels tu n'as pas la connaissance, il règne. Quand tu es ignorant, il règne. Faut avoir la connaissance, que quelqu'un dise la connaissance. Qui es-tu? Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu connais à propos de Dieu? Qu'est-ce que tu connais à propos de ton identité en Christ? Parce que ce que tu connais à propos de ton identité se voit au travers de ton attitude et de tes actes au quotidien. Si tu as tout le temps peur, ça veut dire que tu ne sais même pas qui tu es. Satan vient à toi et puis, vous savez, il y a des gens, je vois, ils ont tout le temps peur. Et ils ne savent pas que la peur, c'est un esprit. Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou un esprit de timidité. Pour être encore dans la crainte, nous avons reçu l'esprit de force. Que quelqu'un dise amen. Alors, il ne sait pas que la peur, c'est un esprit. La peur, c'est un esprit. Ça veut dire quoi? Que la peur, c'est un esprit. Et que sa nature, c'est la peur. Que quelqu'un dise amen. L'esprit de peur, sa nature, c'est la peur. Ça veut dire que quand il vient, il a peur tout le temps, il tremble tout le temps. Il a peur, il est tout le temps, c'est un trouillard. Et quand l'esprit de peur vient en toi, ça veut dire qu'il apporte en toi sa nature à lui, qui est la trouille. Alors, quand il rentre en toi, il ne fait que manifester ce qu'il est lui-même. Est-ce que vous me comprenez? C'est un esprit de peur, donc quand il rentre, il installe en toi la peur. Et comme sa nature, c'est de trembler tout le temps, c'est un truc, dès qu'il voit quelque chose, alors quand il rentre en toi, toi aussi tu deviens maintenant, vire-le dehors. Tu lui dis, esprit de peur, toi et moi, on n'a pas fait mariage, on n'a pas fait contrat, dégage. On est d'être comme ça. Oh, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis en train de trembler. Je tremble. Je dis, est-ce que vous savez, des fois, j'avais le problème, un miroir, dis, regarde-toi dans le miroir, regarde-toi. Dis-moi si ça, c'est digne d'un citoyen du royaume des cieux, d'un ambassadeur, d'un champion de Dieu, d'un homme de valeur, d'un homme de feu, d'une femme d'impact. Dis-moi, est-ce que c'est digne de toi? Je ne sais pas quoi faire, je tremble. Quand l'esprit de peur entre en toi, il manifeste la peur. Mais ce n'est pas toi. Que quelqu'un dise amen. Bon, ça fera l'objet d'un autre enseignement. Ça. Mais connais ton identité. Ce qui nous coûte cher, bien aimé, c'est ce que nous ne connaissons pas. Moi, je me suis rendu compte que, j'en parle même dans le livre, derrière la peur, il y a l'ignorance. Chaque fois que tu as peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas, et que tu ne comprends pas, et qui te fait peur. Que quelqu'un dise amen. Un jour, ils sont venus arrêter Élisée. Le serviteur d'Élisée, il avait peur. Gars, tu vois des chars, des Syriens autour de toi, en train de vous encercler, ton maître et toi. Il y avait deux attitudes. Élisée voyait ce que son serviteur ne voyait pas. Alors, le serviteur avait peur, il était là, on va nous tuer. Élisée dit, petit, bats la terre, assieds-toi, et laisse-toi bercer. Ferme les yeux, et puis laisse faire. Dis non, mais regarde, il y a le feu dans la maison, il y a la panique à bord. Il dit, calme-toi, mais ça ne va pas, calme-toi. Et il a seulement prié, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et quand Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, le serviteur d'Élisée a vu que, c'est vrai qu'il y avait des chars autour d'eux, mais il a vu autour des chars en question qui les encerclaient, il a vu des chars de feu, des milliers et des milliers et des milliards de chars de feu. Et quand le serviteur a fait ça, il a dit, oh Seigneur, bon moi aussi, laisse-moi prendre ma chaise, moi aussi je vais dormir. Moi aussi je vais faire dodo. Que quelqu'un dise amen. Il y a quelque chose que tu ne vois pas qui te fait peur. Mais mon frère, ma soeur, nous devons grandir dans la connaissance. Grandir dans la connaissance. Que quelqu'un dise grandir dans la connaissance. Ça veut dire connaître pourquoi tu es là. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là sur cette terre? Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour faire de la figuration. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais comment est-ce que Dieu fait pour pourvoir à tes besoins? Est-ce que tu le sais? Parce que si tu ne sais pas comment Dieu fait pour pourvoir à tes besoins, dès que tu as un besoin, tu vas toujours demander, Seigneur, j'ai tel besoin. Parce que c'est ce qu'on t'a appris à faire. Quand tu sais comment Dieu fait pour pourvoir à tes besoins, tu ne vas plus prier comme ça. Tu vas commencer à appliquer ce que tu connais. Que quelqu'un dise amen. Moi, je sais comment Dieu fait pour pourvoir à mes besoins. Chaque fois que tu as un besoin, Dieu dit, donne quelque chose. Oh, Seigneur, c'est moi qui suis dans le besoin et tu me donnes quelque chose. Dès que Dieu veut faire un miracle dans ta vie, il te dit toujours, donne quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai rien. Qu'est-ce que tu as? Ah, il ne me reste plus que 5 pains et 2 poissons. Donne ça. Je vais multiplier. Que quelqu'un dise amen. Parce que avant de recevoir, tu dois semer. C'est un principe. Comment est-ce que Dieu fait pour prendre soin de toi? Comment est-ce que Dieu fait pour répondre à tes besoins? Dieu te demande toujours une semence. Donne quelque chose. Je ne parle pas forcément d'argent, mais donne quelque chose. Il y a quelque chose qui est en toi, avec toi, que tu dois libérer, afin de recevoir quelque chose que Dieu veut te donner. Que quelqu'un dise amen. Si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un te dira qui tu es. Mais ça ne sera pas Dieu. Que quelqu'un dise amen. Je répète. Si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un te dira qui tu es, et le pire, c'est que tu vas le croire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec la colonisation. Ben, comme on ne sait pas qui on est, toi, écoute. Ton statut social, vu ta couleur de peau, vu ça. Franchement, le mieux pour toi, le plus optimiste qu'on puisse avoir pour toi, c'est un truc à la poste. Ce n'est pas mauvais de travailler à la poste. Mais je vous dis quand même, il y a des préjugés, il y a des clichés, il y a des choses qu'on a emmagasinées à l'intérieur de nous qui sont pathétiques, qui ne correspondent pas du tout à la volonté de Dieu. On a conditionné la mentalité, j'en parle beaucoup dans le livre, on a conditionné notre mentalité en nous donnant une identité. Que quelqu'un dise Amen. Et Paul arrive dans Romains 12, verset 2, il dit, ne prenez pas le modèle, le moule du monde dans lequel vous êtes. Sortez de ce moule, sortez, il dit, ne vous conformez pas. Ça veut dire, ne prenez pas la forme de l'environnement dans lequel vous êtes. Mais soyez transformés. Et le pasteur, il vous a expliqué une fois que transformer, ça veut dire changer de forme, aller au-delà de la forme actuelle. Est-ce que vous me suivez? Ne vous conformez pas. Ça veut dire, ne restez pas dans le modèle où vous êtes, mais soyez transformés. Sortez de ce moule, de ce modèle, pour aller prendre le modèle de Christ, le moule. Et vous expliquez que lorsque vous voyez, vous mettez de l'eau dans un verre, l'eau prend la forme du verre. Est-ce que vous me suivez? Mais l'eau n'a pas la forme naturelle d'un verre. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est un modèle, c'est un moule. Il dit, ne vous laissez pas modeler, façonner par le monde dans lequel vous êtes. Ne prenez pas, si vous êtes de l'eau, ne prenez pas la forme de ce verre. Sortez de là et prenez la forme de Christ. Ne vous laissez pas conformer au monde présent ou encore au siècle présent. Et le monde, il vous a expliqué que le monde, c'était un système de valeurs, de pratiques, de pensées, de mentalités qui étaient en vigueur dans une région déterminée. C'est ça le monde. Le monde, ce n'est pas un lieu géographique. Le monde, ce n'est pas la... Pardon, non. Le monde, ce n'est... Oui. Le monde, c'est un système de pensée. Voilà ce que je veux dire. Que quelqu'un dise Amen. Le monde, ce n'est pas un lieu géographique. Parce que ici, en France, il y a des gens qui vivent dans le tiers-monde, il y a des gens qui vivent dans un monde développé. Ici, en France. Un pays riche en possibilités, riche en ressources, riche en tout. Il y en a qui vivent dans le tiers-monde. C'est quoi? C'est une mentalité, un système de pensée, de pratique, mentalité qu'il a adopté et qui le conditionne complètement. Paul dit, sortez de là. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en fait, le monde dans lequel nous vivons nous influence forcément et nous conditionne forcément. Si vous avez grandi dans un pays développé, dans un pays occidental, vous pouvez être sûr que vous avez quelque part le modèle de pensée du système occidental, avec ses valeurs, ses pratiques, ses croyances. Pas de Dieu, athéisme, ça c'est occidental. Démocratie, ça veut dire liberté de faire tout et n'importe quoi, tout est légalisé au nom de la liberté. Tout ce qui est anormal devient normal. Vous allez en Afrique, c'est un autre monde. Nonchalance, paresse, médiocrité, division, querelle permanente. Ça aussi c'est un monde. Et quand vous habitez dans ce monde-là, vous pouvez être sûr que ce modèle de pensée va vous affecter. Que quelqu'un dise Amen. Vous allez en Asie, c'est un autre monde. Hein? Comprenez? On enseigne certaines pratiques, certaines mentalités, diligence, rigueur dans le travail, un Dieu par habitant. C'est un monde. Ce qui fait que si vous avez grandi dans un monde asiatique, vous allez être diligent. Naturellement, vous allez être diligent. Les gens sont... C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils sont des bosseurs. C'est des bosseurs. Ils ont tous un Dieu aussi. Pour chaque habitant, il y a un Dieu. Mais Paul dit... Ne vous conformez pas, ne prenez pas tous ces modèles de monde dans lequel vous êtes là. Laissez ça, sortez de là et entrez pour entrer dans un nouveau monde, un autre monde, un autre moule. C'est le moule de Christ, c'est la pensée originale de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Mais pour ça, il faut la connaissance. Il faut l'information, parce que l'information, lorsqu'elle est appliquée, produit la transformation. Laissez-vous transformer. Ça veut dire, mais avant d'être transformé, il faut une information. La plupart d'entre nous, nous n'écoutons pas les coffrets. Je vois des gens, ah, pasteur, le message, je m'a béni, c'était fort. Est-ce que tu vas acheter cet enseignement pour toi-même? Ou est-ce que tu vas te contenter de t'appuyer sur ta mémoire? Parce qu'il a été démontré qu'en l'espace de 2 semaines, ce que tu as entendu aujourd'hui pour la première fois, 2 semaines, il ne te reste plus que 2%. Alors aujourd'hui, il est tout enthousiaste parce que pour manger, pour nourrir notre ventre, mais pas pour nourrir notre esprit. Et puis après, voilà pourquoi Paul... Ça fait longtemps que vous auriez dû être des maîtres. Cocobal, avec ta barbe blanche dans le Seigneur. Il y en a quand ils le voient spirituellement, ils ont la barbe blanche, ils ne se lassent même plus. Spirituellement, ils... Bon, enfin, là, je parle des hommes. Hein. Il y en a, ils ont des rides spirituelles tellement... mais pas de fruits, pas de connaissances. Tu lui demandes, explique-moi le salut. Le salut, c'est le fait que tu sois sauvé. Ah bon? Le salut, c'est la délivrance de l'enfer, de la condamnation. Mais attends, tu dis ça à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce que tu dis, charabia? Ah, nous, les chrétiens, vraiment, vous savez, des fois, on a un langage complètement déconnecté de la réalité. On ne sait pas expliquer des réalités profondes avec un langage simple. Tu es chrétien, c'est quoi la justification? La justification, c'est-à-dire que ton voisin qui me regarde là, il ne sait même pas ça non plus. Si tu ne sais pas qui tu es, tu seras piégé à la tentation. Si tu ne sais pas qui tu es, Satan viendra et dira, si tu es le fils de Dieu, fais ça. C'est à cause de ça que vous avez des hommes. Si tu es un homme, frappe-moi. Et puis lui ici, il est là. Ça veut dire qu'il ne savait même pas qui il était. Parce que si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de prouver ce que tu es. Puisque je sais qui je suis. Un homme qui frappe une femme parce qu'il y a le défi, c'est un homme qui ne sait pas qui il est. Perd d'identité. Alors il hésite. Est-ce que je suis un homme ou pas? Oh, je ne sais plus, on le tape. Comme ça, moi, c'est réglé, on tape et puis voilà, c'est terminé. Que quelqu'un dise amen. Mais quelqu'un qui sait qui il est, tu dis, Satan te dit, si tu es un homme, prouve que tu peux y arriver. Tu dis à Satan, je n'ai rien à te prouver. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si tu es un homme, prends la cistala, cours après elle, fais l'adultère. Je dis, je n'ai pas à mentir, je ne mange pas de cette saleté-là, mon ami. Je sais que je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Je suis un fils de Dieu, je suis sanctifié, consacré. Je ne peux pas souiller mon corps comme ça. Oui, mais prouve quand même, parce que, vous savez, Satan, il nous piège là, hein, souvent. C'est là ce qu'il faut prouver là. Si tu es une femme, si tu as la foi, essaye ça. Non, si tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui nous sommes. Alors, comme tu ne sais pas qui tu es, Satan te dit que... Alors, tu ne sais pas trop, tu dis, bon, oui, je ne sais pas qui je suis, donc je vais essayer quand même. Connais Dieu, connais ton identité. Amen. Investis, lis, achète, offre-toi, je n'ai même pas acheté, offre-toi la parole de Dieu. Offre-toi, entends, tu deviens ce que tu entends, entends régulièrement, acquiers la connaissance, approfondis. Moi, j'en ai assez des gens qui viennent me voir pour me dire, ouais, ça m'a touché. Et puis après, je sais que deux semaines plus tard, il aura tout oublié parce qu'il n'aura pas investi dedans. Moi, j'écoute tout le temps. Vous voyez, dans mon salon, dans ma chambre, dans ma salle de bain, pendant que je me douche, au lieu d'écouter, hein, énergie. Et arrête ça. Arrête ça, dis à ton voisin, arrête ça. Fun radio, Skyrock. Skyrock. Oui, camarade. Non, c'est pas Skyrock, c'est Fun radio. Hein? Ado FM. N'écoute pas Ado FM. Écoute la parole de Dieu. Écoute les enseignements qui te construisent. Et arrête de regarder la télévision, parce que de toutes les manières, que tu le veuilles ou pas, ce que tu entends régulièrement, ça te nourrit. Sauf qu'il y a des nourritures qui te pourrissent. Il y en a qui savent ça parmi nous. Il y a des nourritures qui vous pourrissent. La parole est pour l'esprit ce que la nourriture est pour le corps. Amen. La parole est une nourriture. Donc, chaque fois que tu entends quelque chose, fais attention parce que ça va te nourrir. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas, ça va t'affecter. Ça va te rendre plus fort ou plus faible. Alors, quand tu lis Arlequin, Paris Match, ah, l'histoire de Johnny Hallyday, ah, il a encore divorcé, c'est pas possible ça. Ça va t'abrutir parce que tu vas concevoir, ah, le divorce. Tu vas commencer à penser toi aussi au divorce. Ah, lui, il a divorcé, tu vois, moi aussi, il me fatigue chez moi, là. Moi aussi, je vais divorcer. Écoutez, un citoyen, un ambassadeur n'est pas là pour être influencé, il est là pour influencer sa génération. Un ambassadeur n'est pas là pour voir les jeunes ados dans l'école mettre. Et puis lui, si commence à marcher, vient à l'église. Bonjour, pasteur. Tu as appris ça où? Tu t'es laissé contaminer, influencer. C'est à toi de marcher au milieu de ces gens-là de manière solennelle en disant, je sais qui je suis par la grâce de Dieu. Voilà. Tu marches comme un ambassadeur solennel. Hein? Solennel. Tu vas te laisser influencer. Que quelqu'un dise amen. Oh, glory be to God. Il y a des choses que nous devons refuser de faire parce que nous savons qui nous sommes. Refuse de te laisser conditionner, mon frère. Tu dois avoir la connaissance. Dis à ton voisin, grandis en connaissance. Dis à l'autre voisin, mûris en connaissance. Lorsque le dimanche, nous sommes nombreux, 400 personnes le dimanche. En semaine, lorsqu'on dit enseignement, formation, plus personne. Plus personne. Les gens ne sont plus là. Ils négligent la connaissance. Il y a encore parmi vous des gens qui pensent que l'éternité, ça va se passer au ciel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pas toi, ton voisin, demande-lui. Demande-lui. Moi, je hais la connaissance, je hais l'ignorance. Que quelqu'un dise amen. L'ignorance coûte trop cher. Mes amis, l'ignorance coûte trop cher. Quand je vais commencer le thème suivant, je finirai la semaine prochaine. Le deuxième domaine, le premier domaine, j'ai dit c'était la connaissance. Le deuxième domaine dans lequel Dieu veut que nous grandissions, c'est la compréhension. Que quelqu'un dise la compréhension. Ça, suivez-moi, c'est très très important. Dieu veut que nous grandissions dans le domaine de la compréhension. La compréhension, c'est la perspective. C'est-à-dire ce que tu perçois. Nous allons lire Psaume 103 au verset 7. Psaume 103 au verset 7. Thank you, Lord. Est-ce que vous y êtes? Il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Ça, c'est la version du semeur. Une autre version dit, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël. Suivez-moi bien. C'est quoi la compréhension? Ici, dans ce passage que nous venons de lire, il dit que l'Éternel a fait connaître ses voies à Moïse et il a fait connaître ses exploits aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a montré ses actes à son peuple d'Israël, mais à Moïse, il lui a montré pourquoi il a fait. Il lui a montré l'itinéraire, il lui a montré les voies. Le pourquoi Dieu l'a montré à Moïse. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple, il n'a vu que le résultat final, et Moïse a vu le processus. C'est un signe de maturité. Lorsque ta compréhension commence à changer, 1 Corinthiens 13, verset 11, je lis. 1 Corinthiens 13, verset 11, vous pouvez le noter. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, et je raisonnais en enfant. Le mot raisonner ici, c'est le mot compréhension. Je comprenais comme un enfant. Une fois devenu adulte, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je mûris, ça change. Est-ce que ton langage a changé depuis que tu es venu au Seigneur? Ou est-ce qu'il y a toujours des gros mots dans tes lèvres, dans ta bouche? Il y a encore des questions que tu vois. Oh, merde. Oh, ça fait combien de mois même quelque chose? Ton langage là. La compréhension. Quelqu'un gagne la compréhension. Il dit, je comprenais. La version lui seconde dit, je raisonnais en enfant. Paul dit, je comprenais comme un enfant. Un enfant a une manière de, un bébé a une manière de comprendre qui est complètement différente de celle d'un adulte. Alléluia. La compréhension, c'est lorsque vous découvrez le pourquoi de la vie. Ou, je vais te dire, les pourquoi de la vie. Il y a tellement de choses qui te sont arrivées, qui me sont arrivées. Et lorsque tu es un bébé, tu as toujours tendance à blâmer, à accuser, à remettre en question, à interroger. Mais lorsque tu grandis en compréhension, tu commences à mettre des mots au pourquoi de la vie. Pourquoi tel événement? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu es capable de voir la main invisible de Dieu dans tout ce qui t'arrive, tu es en train de grandir, de mûrir en compréhension ou encore en perspective. Tu viens de rater le train alors que tu as tout fait pour être à l'heure. Dans quel état tu te mets? Est-ce que tu te mets en colère ou est-ce que tu te réjouis? Pour mûrir. Parce que si tu t'es mis, tu as fait tout comme prévu et que tu arrives qu'il y a un incident de dernière minute qui te fait louper une opportunité, réfléchis un peu. Peut-être que Dieu veut faire autre chose. Peut-être que Dieu, ce jour-là, a décidé de te faire rencontrer quelqu'un qui avait besoin de t'entendre. Mais les enfants, ils se plaignent toujours. Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Je comprenais. Maintenant, il faut changer. Dieu veut que tu mûrisses et que tu changes de manière de penser et de manière de comprendre. Alléluia. lorsqu'on casse ta voiture, est-ce que tu te plains ou est-ce que tu te réjouis? Qui vois-tu derrière les événements de la vie? Qui vois-tu derrière les persécutions? Lorsque quelqu'un t'a mal parlé, t'a calomnié, t'a critiqué, qu'est-ce que tu vois? Quand on a un enfant, dès que quelqu'un nous a fait du mal, on voit tout de suite un ennemi. Ah, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon ami. Ah, c'est comme ça que fait ma fille. Mais lorsque tu es un adulte, qu'est-ce que tu vois? Ta compréhension doit changer. Qu'est-ce que tu confesses dans les situations de difficulté? Lorsque ça ne va pas, dans les situations de galère, tu parles comment? Ah, je suis fichu. Oh, ça ne va pas. Parce que tu as un langage positif quand même. Alors, je vais vous donner trois caractéristiques. Lorsque vous mûrissez en compréhension, qu'est-ce qui se passe? Numéro 1. La compréhension nous aide à supporter les épreuves. Que quelqu'un dise Amen. Hébreux chapitre 12, verset 2, dit ceci. Gardons les yeux fermés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Hébreux 12, verset 2. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ce qui a donné à Jésus la force d'endurer les épreuves et les souffrances, c'était le fait qu'il voyait au-delà. Il a enduré la mort sur la croix, il a méprisé la honte parce qu'il voyait la joie qui lui était réservée. Que quelqu'un dise Amen. Deuxièmement, je finis avec ça. La compréhension vous aide à rester focalisé et joyeux en toutes choses. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre. Oh, c'est quel passage? Je crois que c'est 1 Pierre 1, verset 2 à 4. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Je relis. Mes frères, virgule, et mes sœurs évidemment. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance ou encore la persévérance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Paul est en train de vous dire, et Paul est en train de nous dire ici, lorsque nous passons par des épreuves, Paul dit soyez heureux. Bénissez l'Éternel, soyez contents. Parce que Dieu est en train de mettre à l'épreuve votre foi, et votre foi va produire la persévérance. La persévérance, c'est un caractère, c'est un fruit que vous devez manifester, et c'est ce qui distingue les enfants des bébés. Alléluia. Qu'est-ce que dit Paul dans Romains chapitre 8, verset 28? Il dit, pourquoi se réjouir? Pourquoi être heureux? Je finis avec ça. Parce qu'en réalité, suivez-moi bien, en réalité, toute chose, que quelqu'un dise toute chose, travaille ensemble. Non, c'est moi qui dis. Toute chose concourt ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que quelqu'un dise toute chose. Ça ne veut pas dire certaines choses. Ça veut dire toutes choses. Là, c'est point numéro un. Le deuxième point, c'est concours ou encore travail. Que quelqu'un dise travail. Ça veut dire, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que tous les événements de la vie collaborent ensemble. Ils ont l'air indépendants les uns des autres, mais ils travaillent ensemble. Et c'est le troisième mot. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'aucun événement de ta vie n'est isolé. Que quelqu'un dise Amen. Alors je vais vous donner un exemple. Regardez, l'œuf. Qui a déjà mangé un œuf cru? Il y en a qui mangent des œufs crus? Mon Dieu! Oui, bon, il faut beaucoup d'appétit. Hein? Mais la plupart d'entre nous, moi je trouve personnellement l'œuf cru dégoûtant. Hein? Si vous le mangez cru et seul comme ça, là vraiment... Bon, bref. Gloire à Dieu, c'est bon pour la santé. Un œuf cru a l'air dégoûtant. Prenez la farine. La farine... Bon, qui a déjà mangé la farine comme ça? Sauf quand tu étais sur le point de mourir de faim. Ne lève pas la main, Julien. Ne lève pas la main. La farine a l'air fade, répugnant. Ça n'a pas de goût. C'est fade. Vous prenez l'huile. Est-ce que vous pouvez boire l'huile comme ça? Non. ça n'a aucune apparence attrayante. Amen. Mais Paul dit, tous ces événements qui, des fois, ont l'air, quand tu les prends indépendamment, chacun d'eux a l'air bizarre. Mais il dit, lorsque tu les mets ensemble, quand tu les mets ensemble, qu'est-ce que tu fais? Les hommes ne savent même pas faire à manger, ils ne savent même pas répondre. Écoutez, même moi je sais que c'est un gâteau qu'on peut faire avec ça. Ou des crêpes. Quelqu'un dit amen. Alors Paul dit, il y a des événements de ta vie. Quand tu les prends séparément, ça semble désagréable. Il y a des blessures amères que tu as expérimentées. Il y a des personnes qui t'ont abandonné et rejeté. Deuxième événement. Et quand avec ça, tu additionnes le fait qu'il y a un conjoint qui t'a quitté ou un ami qui t'a quitté. Waouh, ça fait mal. Et en plus de ça, on veut te virer de ton appartement. Là, ça, là maintenant, c'est quand, là, tu vois, tu as mis tout dans le moule, maintenant tu mets ça dans le four. Ça, c'est la totale. Et on met les ingrédients un à un, tu les prends séparément, ils ont l'air tous dégueulasses. Tu, en plus, maintenant, on met dans le four. Ça, c'est quand on augmente la température. Mais Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'au final, il y a un gâteau resplendissant qui va donner une bonne saveur qui sortira de toi. Que quelqu'un dise amen. C'est ce qu'on appelle mûrir en compréhension. C'est-à-dire que tu arrives à voir avec du recul ce qui t'est arrivé hier. En 1995, je me viens de me convertir au Seigneur. Je veux aller en Côte d'Ivoire ou en Afrique pour faire mon service militaire. On m'envoie en Italie dans un pays que je n'aime pas. Ça, c'est l'œuf. Après ça, ma copine de l'époque me laisse tomber. Ça, c'est la farine. Mon père décède. Ça, c'est l'huile. Ma mère me fait une crise parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Ça, c'est le four électrique. Et tout ça là, ça te fait mal. Ça te meurtrit. Mais mon frère, quand Dieu met dans le four là, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui va ressortir. Alors j'ai envie de te dire, fais un peu la somme de toutes les galères qui t'arrivent en ce moment. Arrête de les prendre un peu séparément. Essaie un peu de voir, il y a un point où ça va converger et ça va donner du bon fruit. Ce qui sortira de toi va resplendir. Vous connaissez l'histoire, il y a l'histoire de ce maître, de, comment on appelle ça, un violoniste, j'ai retenu cette histoire, qui, pendant une vente aux enchères, a pris un violon. Non, on vendait, voilà, c'était une vente aux enchères, il y avait un violon qui était vendu, et le commissaire priseur a dit, $1 pour le violon. Le violon était fatigué, sale, rempli de saleté, de toile d'araignée et tout. Et personne n'a voulu lever la main même pour $1 pour prendre son violon tellement il était broke. $1, personne ne lève la main. $1, personne ne lève la main. Et puis alors du fond de la salle se lève un vieux monsieur avec une grande barbe qui vient devant, qui marche majestueusement, il arrive devant. Et puis il prend, et puis il arrive et dit, est-ce que je peux prendre le violon? Et puis il prend le violon, et puis il commence à jouer de la musique. Il commence à faire un son, il commence à faire un son, il commence à faire un son. Le son était, la mélodie était tellement doucereuse, merveilleuse, solennel. Et à un moment donné, tout l'auditoire a été captivé. Et puis, dès qu'il a fini, il a déposé le violon, tout le monde a commencé à clamer. Et puis, le commissaire priseur a dit, $100, les mains ont commencé à se lever. $1,000, les mains ont commencé à se lever. $10,000, les mains ont commencé à se lever. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est simplement le fait que le vase ait été utilisé entre les mains du maître, nettoyé, tapoté, il a enlevé les saletés, les poussières. Mais après, je vous assure que tout le monde le voulait. Et ma vie et ta vie est comme ça. Dieu la prend. Il commence à nettoyer. Ça fait mal des fois. C'est normal. Parce que des fois, il est obligé de mettre au four pour que ce soit doré. Et quand il voit que c'est un peu trop blanc encore, il remet encore au four parce qu'il faut que ce soit bien doré. Mais quand le gâteau ressort de là, mon frère, les gens commencent à te courir après. Les gens commencent à te célébrer. Les gens commencent à te rechercher. Les gens commencent à demander à parler avec toi. On commence à chercher ta compagnie parce qu'on se dit que dans ta compagnie, quelque chose se produit. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail que tu as laissé Dieu faire à l'intérieur de toi. Lorsque tu comprends, lorsque tu mûris en perspective, c'est vrai que tu as des événements fâcheux qui te sont arrivés, mais ton intelligence commence à s'ouvrir et alors tu comprends le point numéro 3, je m'arrête par là, qui dit que la compréhension nous aide à nous libérer des blessures du passé. Que quelqu'un dise amen. La compréhension nous aide à nous libérer des blessures du passé. Parce que lorsque tu comprends finalement que tout ce qui m'est arrivé, on m'a laissé tomber, on m'a rejeté, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Mais au final, regarde un peu aujourd'hui. Au final, Seigneur, gloire à Dieu parce que je suis maintenant en Christ. Maintenant, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Quelqu'un m'a rejeté hier. Regardez. Mon ancienne famille m'a laissé tomber. Tant pis pour elle. Gloire à Dieu parce que je dis, j'ai la plus belle femme du monde. Que quelqu'un dise Amen. Il y a beaucoup de choses négatives qui me sont arrivées. Mais quand je regarde en arrière, je me dis, mon Dieu. En fait, Dieu était en train de coordonner chaque événement. Il y a des portes qu'on t'a fermées. Tu en as voulu aux gens. Dieu dit, laisse tomber. Si on t'a fermé des portes, c'est parce que Dieu n'a pas permis qu'elles soient ouvertes. Et si Dieu n'a pas permis qu'elles soient ouvertes, ça veut dire que ce n'était pas le temps. Soit ce n'était pas le temps, soit ce n'était pas la manière de faire. Il y a des gens sur lesquels tu t'es appuyé. Il y a des gens vers lesquels tu as regardé. Tu as dit, si lui, il peut m'aider. Tu as commencé à mettre ton espoir sur cette personne. Et brusquement, Dieu a fait disparaître cette personne de ta vie. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi cette personne a disparu? Dieu dit, c'est pour que tu t'appuies sur moi seul et pas sur elle. Je n'ai pas envie que cette personne prenne le crédit pour ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. Dieu l'a fait, il l'a fait dans ma vie, il le fait dans ta vie et Dieu le fait pour ICC. Des gens sur lesquels on s'appuie, on dit, Seigneur, peut-être que lui, il va nous aider pour le bâtiment. Dieu dit, il le fait disparaître soudainement, tout à coup, brusquement, sans avertir, la personne a disparu. Dieu veut garder le mérite et le crédit pour ce qu'il va faire. Alors, lorsque tu regardes en arrière et tu vois ça, tu te dis, mais en fait, là-bas, on m'a fermé la porte. Là, on m'a fermé la porte. Là, on m'a écrasé. Mais en fait, finalement, c'est ce qui m'a permis de me retrouver là où je suis. Lorsque tu commences à comprendre, tu commences à faire comme Joseph. Il dit dans Genèse chapitre 5, ses frères l'ont jeté, ses frères l'ont méprisé, ses frères l'ont vendu comme esclave. Mais lorsque, plusieurs années après, Joseph est quand même arrivé sur le trône de Pharaon, Joseph regarde en arrière. Et puis il dit à ses frères, parce que ses frères étaient désolés. Joseph, on t'a vendu, pardon, 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 petit, pardon. Ne nous tue pas. Joseph leur dit dans Genèse chapitre 45 au verset 5, verset 7 à 8. Il leur dit, écoutez, maintenant ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph a changé, il a compris le pourquoi du processus qu'il a expérimenté. Le pourquoi du rejet, le pourquoi des blessures, le pourquoi des meurtrissures, le pourquoi des dégâts, le pourquoi des catastrophes, le pourquoi des incidents fâchés de ta vie. Joseph a compris le pourquoi. Et c'est lui qui a souffert, qui commence à encourager, à consoler ses frères. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Waouh, c'est vous qui m'avez vendu. Il dit, non. Tu m'as vendu, mais en fait, c'est Dieu qui m'a vendu. C'est Dieu qui m'a mis là-bas. Tu m'as viré de mon entreprise, mais en fait, c'est Dieu qui m'a fait sortir. Que quelqu'un dise Amen. Je ne me considère pas comme un... Non, on t'a viré de ton entreprise. Ne te considère pas comme un licencié. Considère-toi comme quelqu'un qui a été simplement envoyé par Dieu ailleurs. Et là, tu cesses d'être amer. Tu cesses d'être frustré et tu commences à bénir Dieu. Et tu commences à aimer Dieu davantage. Je suis passé par telle maladie, galère, souffrance. Ah, pourquoi? Et si tu comprends que tout ça, peut-être que ça contribue simplement à te garder humble. Parce que vous savez, il y a des maladies qui nous rendent humbles. Paul avait une écharde dans la chair. Maladie chronique, mais ça le gardait humble. Que quelqu'un dise Amen. Je ne sais pas par quoi tu es passé, mais tout ce que je tiens à te dire, la Bible, Dieu nous appelle à mûrir en perspective, dans notre manière de comprendre les choses. Ne regardons pas seulement ce que Dieu fait. Regardons, essayons de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire sortir en moi? C'est ça qui est le plus important. Je ne sais pas par où tu es passé, je ne sais pas ce que tu as expérimenté, je ne sais pas ce que tu as subi comme blessure, comme difficulté, mais je tiens à te dire une chose. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, c'est douloureux. Aujourd'hui, c'est pénible. C'est peut-être l'œuf. C'est peut-être la farine. C'est peut-être l'huile. Mais attends de voir. Le gâteau qui va sortir. Le monde célébrera ce gâteau. Le monde le prendra. Le monde te sollicitera. Le monde te cherchera. Parce qu'alors, tu seras la réponse de Dieu à leurs questions. Alors, tu seras la solution de Dieu à leurs problèmes. Inclinons la tête et prions. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, en premier lieu, pardon pour tous les murmures, pour toutes les colères, pour tous les ressentiments que tu as gardé dans ton cœur, que j'ai gardé dans mon cœur. Toutes ces choses, tous les pourquoi de la vie pour lesquels tu n'avais pas de réponse. Tu vas élever la voix avec moi simplement pour dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi la compréhension. Fais-moi comprendre ce que tu comprends. Fais-moi voir ce que tu vois.
Fais-moi, Seigneur, changer d'attitude complètement. Au lieu de m'apitoyer, je veux me réjouir. Au lieu de te condamner, je veux te célébrer. Seigneur, change ma compréhension. Change ma perception. Change ma perspective. Joseph a été vendu. Joseph a expérimenté le rejet. Joseph a expérimenté les blessures. Joseph a expérimenté le mépris. Joseph a expérimenté la prison. Joseph a expérimenté des turbulences dans sa vie. Et Joseph, à la fin de sa vie, lorsque le plan de Dieu s'est accompli, Joseph a été le premier à dire, ce n'est pas vous qui avez fait ça. Vous avez été des agents inspirés, utilisés par Satan, mais derrière lesquels il y avait toujours la main invisible de Dieu parce que Dieu règne toujours. Quand bien même Satan utiliserait d'artifices pour te faire tomber, pour te démolir, pour te détruire, la Bible dit que d'éternité en éternité, Dieu règne et que sa main contrôle toutes choses. Il n'y a aucune tentation qui vous soit parvenue qui n'ait été insurmontable pour vous. Parce que Dieu contrôle la température du four. Il a dit, tu ne brûleras pas lorsque tu passeras par le feu. Il a dit, tu ne te noieras pas lorsque tu passeras par les grandes eaux. Elles ne te submergeront pas. Parce que je contrôle la température du feu. Parce que je contrôle la hauteur et la profondeur de l'eau. Tu ne te noieras pas. Mais regarde à moi. Regarde à ma main invisible. Qui fait toutes choses en son temps, en son timing, en son tempo, pour amener simplement à la manifestation une femme, un homme fait, mûr, adulte, mature, qui porte du fruit et que le monde peut venir ensuite. Auprès de qui le monde peut venir demander les solutions, demander les recettes, demander comment as-tu fait, demander qu'est-ce qui t'est arrivé, comment est-ce que tu fais pour tenir alors que tout le monde est tombé, comment est-ce que tu fais pour être enthousiaste alors que tout le monde est découragé, comment fais-tu pour avoir de l'espérance alors que tout le monde n'a plus d'espérance. Et alors c'est là que toi et moi nous pourrons dire, mon frère et ma soeur, Dieu nous a travaillé, Dieu a façonné, Dieu a mis dans le four et il nous a accordé la grâce de tenir. Et maintenant, le fruit qui est manifesté au travers de ma vie attirera les nations du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Elles viendront, elles cherchant Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nous te remercions, notre Père. Simplement ouvre les yeux de notre cœur. Challenge, Seigneur, notre perception. Renouvelle, Seigneur, notre manière de voir. Élargis notre compréhension. Et dans le domaine de la compréhension, fais-nous mûrir. Là, nous avions l'habitude de condamner, de blâmer les gens pour tout ce que nous avons subi et vécu de manière difficile, Seigneur. Accorde-nous maintenant la grâce de regarder en arrière et de dire, il m'a rejeté, mais ça m'a permis de trouver autre chose. On m'a abandonné, mais ça m'a permis de trouver une famille. On a abusé de moi, mais ça m'a permis de me rapprocher simplement de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ça s'est produit ainsi, mais je sais une chose, c'est que maintenant je peux regarder simplement à la bonté de Dieu et dire, Seigneur, peut-être que si tu ne t'es pas passé par là, je ne t'aurais peut-être pas connu. Alors je n'aurais pas connu la vie éternelle. Et je ne serais pas en train d'aller là où tu m'emmènes maintenant, vers ma destination. Alors rejetons ce qui est en arrière, je cours vers le but. Avec une attitude d'action de grâce, une attitude de reconnaissance, une attitude de célébration et de louange attendant. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours agréable, mais mon âme bénit l'Éternel parce que je choisis de regarder aux choses invisibles et pas aux choses visibles, parce que les choses visibles sont temporaires, elles ne durent qu'un instant, mais les choses invisibles que tu as choisi d'amener à leur manifestation durent éternellement. À toi la louange, parce que tu as commencé et tu achèveras ce que tu as commencé au travers de mon frère, de ma soeur, de moi-même. Ce que tu as commencé au travers de ICC, tu l'achèveras. Béni sois-tu parce que, Seigneur, béni sois-tu pour les portes qui étaient fermées, ce n'était pas le temps. Parce que, Seigneur, au temps marqué par Dieu, tu les ouvres, Seigneur. Et lorsque tu ouvres une porte, plus personne ne peut la fermer. Lorsque tu donnes la faveur, personne ne peut la retirer. Lorsque tu bénis, personne ne peut maudire. Tu as béni, tu as ouvert les portes de la faveur sur ma vie, sur ton peuple, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Parce que maintenant, nous allons quelque part et plus personne ne nous stoppera. Alors louange à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Hallelujah. In the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Jesus' name.